Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons.
Eh bien, bienvenue sur Divergence FM, le 93.9 pour Cinérama, donc une émission hebdomadaire diffusée de 13h30 à 14h30 et rediffusée le même jour de 18h à 19h. Aujourd'hui, nous avons perdu la tête, hein, c'est le cas de le dire. Alors non pas la tête pensante, puisque bien sûr elle est tricéphale, vous vous en êtes rendu compte, mais c'est bel et bien notre cher Vincent Pourageau qui s'est absenté, une fois n'est pas coutume, pour se rendre à Nantes et assister au Festival des Trois Continents, dont je pense il nous parlera dans une émission future. Donc là, autour de moi, il y a Martin, comme d'habitude.
Bonjour.
Et puis il y a Thierry.
Bonjour.
Voilà, donc le scénario d'aujourd'hui va se développer donc avec notre sommaire. Thierry, tu vas nous parler de quoi, toi ?
Alors, je vais vous parler d'un jeune réalisateur original et prometteur qui s'appelle Richard Kelly.
Et puis Martin, vas-y.
Eh bien, comme cette émission est placée un peu, sous le signe des réalisateurs, moi, je vais vous parler d'un autre réalisateur, alors moins jeune et tout aussi prometteur, par contre, et qui a déjà fait ses preuves, c'est Bill Plimpton, donc, qui était à Montpellier, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, dans le cadre du festival Anima Sud.
Voilà, le festival donc, qui a fermé ses portes, quoi qu'il reste encore un petit peu sur Nîmes, il me semble, mais pour Montpellier, oui, c'est bel et bien fini. Donc, quant à moi, je vais vous parler de Dupontel, puisque Vincent nous parlait la semaine dernière de son dernier film, Le Vilain, qu'il avait chroniqué. Je ne reviendrai pas sur ce film dans cette chronique, mais je vais par contre m'attabler à sa biographie et sa filmographie. Donc ça sera dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, je vais vous parler alors d'un événement, enfin en tout cas pour moi, c'est évident, c'est la sortie en salle de La Route, de John Hillcoat, qui est donc l'adaptation du roman éponyme de Cormac McCarthy, donc La Route. Et ça, c'est, à mon avis, ça va péter terriblement, ça va être superbe. Il va falloir à tout prix, après Cinérama, se ruer en salle. Donc voilà, sinon, pour commencer, je vais m'attabler à Dupontel et sa petite vie. Alors, né en 1964, Albert Dupontel, c'est un élève turbulent et puis sportif. Alors, suivant la voie de ses parents, il décide d'entamer des études de médecine qu'il interrompt pour suivre une formation à l'école de théâtre national de Chélo, où il a pour enseignant Antoine Vité. Il commence à incarner des petits rôles de 86 à 89, notamment avec une petite apparition dans le film de Jack Rivette, La bande des quatre, puis effectue un passage au sein de l'école d'Ariane Nouchkine. En 1990, il débarque sur le petit écran avec une série d'histoires brèves pour Canal+, intitulée « Sales histoires ». Il se fait aussi remarquer sur scène avec la présentation, on en parlait la semaine dernière, de son one-man show, dont on va écouter tout de suite un petit extrait truculent à souhait.
Comment ? Je tire un sujet ?
Sartre, comme le département ? Non, comme le philosophe. Ah oui, vous avez le droit, c'est au programme. Bon, avant de commencer, je vais faire pipi, c'est une tradition, puis je reviens. Comment ? J'ai pas le droit ? J'y vais tout de suite, vous énervez pas, j'y vais. François Sartre, Jean-Paul, je savais, Jean-Paul. François, c'est le frère aîné. Jean-Paul Sartre. Bon, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, j'ai bon. Vous n'en avez pas. Oui. Je vais écouter. Bon. Sartre Jean-Paul, ça marche aussi de l'autre côté. Hein. Sartre Jean-Paul est un philosophe. Comment ? Était ? Il est mort. Possible, ça s'est arrivé quand ça? Ah oui, il y a il y a quand même longtemps. Non, je dis ça parce que j'ai pas été prévenu. C'est pour ça qu'on avait plus de nouvelles, il écrivait plus. Oui, j'y vais. J'y vais tout de suite. Bon, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre était. Ça fait quand même quelque chose, hein. Je sais pas si c'est très décent de continuer. J'y vais. Jean-Paul Sartre était. Quand même, hein. Était un philosophe qui a bien marché.
Voilà, donc les effets dans le studio sont plutôt divergents. Hein. Toi, Thierry, ça a l'air de te plaire. Martin, un peu moins.
Pardon ?
Je sais pas, ce petit sketch de Dupontel. Je sais qu'à la base, t'as pas forcément un grand penchant pour les humoristes.
Mais c'est un des rares humoristes que j'apprécie en humoriste de scène, en tout cas.
Ouais, de toute manière, en fait, il va donc voilà commencer sa carrière par ce one man show, mais il va rapidement en fait quitter les planches et fort par contre de sa popularité, il va mettre en scène en 92 son premier court métrage intitulé Désiré. Mais c'est avec un héros très discret de Jacques Audiard en 1996 que le regard intense de Dupontel crève l'écran. Il y joue Dionnet, un capitaine résistant dont les histoires de guerre inspireront le jeune et lâche The House, interprété par Mathieu Kassovitz, à construire son futur personnage fictif de membre des réseaux clandestins. Une figure paternelle au conseil précieux donc. Tout est là, Albert Dupontel n'a jamais incarné les jeunes premiers du cinéma, mais bien plutôt des écorchés, des baroudeurs, des personnages qui ont vécu, qui connaissent les rigueurs de l'existence. L'acteur possède déjà une maturité qui lui permet de passer pour un chevronné, un vieux de la vieille, un visage déjà imprimé par une longue carrière. À travers sa présence, c'est toute une expérience qu'il n'a pas que Dupontel arrive à imposer à travers ses personnages. La même année, Albert Dupontel accède à la consécration avec la réalisation de son premier long métrage, un film qui devient culte pour beaucoup, vous l'avez deviné, Bernie. Alors l'humour noir et glacé du comédien-réalisateur fait fureur, Bernie Noël et ses répliques font mouche, et on écoute évidemment un extrait de Bernie Noël dans une scène qui est devenue bien sûr culte.
Je m'appelle Bernie Noël, j'ai 29 ans, bientôt 32, je suis député. Je possède un chat, Momo. Momo est un chat depuis de nombreuses années, mais c'est également un félin. Voilà. C'est Momo. Voilà, c'est un chat qui est assez facile à... C'est un chat qui est facile à nourrir. C'est un chat que je peux emmener très facilement dans les déplacements. Je m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les hyènes. Parce que la hyène, c'est un animal dont on parle jamais. Alors que c'est un animal qui peut être très important. Parce que moi, je trouve qu'être ami avec une hyène, souvent, c'est plus important qu'être ami avec des vrais amis. Elle vous protège. Si jamais il y a du danger, et ben, ouais, ben moi, je suis avec une hyène. Alors là, évidemment... En fait, mon vrai nom, c'est pas Bernie Noël. Bernie, c'est le nom de la personne qui m'a trouvé. Et Noël, c'est le moment de l'année où on m'a trouvé. En fait, j'ai jamais réussi à savoir vraiment ce qui s'était passé à ma naissance. Ça fait plusieurs années que je demande mon dossier à l'administration, mais ils m'ont jamais donné. Ils disent que c'est pour mon bien. Ils me connaissent pas, mais ça, c'est bien pour moi. Ah, ça, c'est quand même pas mal, ça. En tout cas, ça prouve ce que j'ai toujours cru. C'est qu'il y a un mystère sur ma naissance. Mais plus pour longtemps.
Voilà, ça, c'est quand même pas mal. Donc Albert Dupontel allie avec Bernie effectivement la comédie caustique sociale, donc puisqu'il est question d'un enfant trouvé dans une poubelle qui cherche à connaître ses géniteurs, à une forme trash, puisque bien sûr on découvre Bernie mangeant des têtes d'oiseaux vivants, il pulvérise la tête du député, il donne des coups de pelle à Tire-Larigot, enfin bon, voilà. C'est notre ami Bernie, donc satire d'un monde où les liens familiaux ne veulent plus rien dire et où l'absurdité guette à chaque coin de rue, Bernie crache son impertinence et sa nonchalance à la tête de ses spectateurs. Donc entre ces deux réalisations, Albert Dupontel n'oublie pas de jouer pour les autres et incarne l'inspecteur glacial Éric Sellier dans Serial Lover de James Huff. Il réendossera le rôle pour Bertrand Blier dans Les Acteurs, en traquant Michel Serrault et ses compères dans une ambiance froide et bleutée en hommage au film noir. Mais avant cela, le comédien réalise son second long métrage, Le Créateur, l'histoire d'un dramaturge prénommé Darius qui, après un douloureux coma éthylique, passe quelques mois en convalescence dans une institution avant de s'apercevoir qu'il ne peut plus écrire. Largement incompris par le public, cette tragico-comédie ne séduit pas les foules malgré quelques gags emmenés. La réalisation est léchée, la photographie particulièrement soignée, mais voilà, avec avec ce film, eh bien, Dupontel ne va pas séduire. Il comporte quand même une réflexion autour de la puissance de la création. Dupontel réaffirme son univers décalé dans la séquence de Dieu interprétée par Terry Jones lui-même, scénariste et acteur fougueux des Monty Python. Darius cherche désespérément des solutions à son manque d'imagination avant d'être convaincu de la nécessité de tuer pour faire émerger les fulgurances. La révélation est dure et le système progresse vers son inéluctabilité. Excusez-moi. Le créateur décide de mettre fin à ses jours pour pouvoir pondre de l'au-delà l'acte final de sa pièce ratée, avec en prime son chapeau de clown en pointe vissée sur la tête. Après le semi-échec du créateur, Albert Dupontel revient cependant sur les devants de la scène avec l'un de ses films les plus touchants, La maladie de Saxe, réalisé par Michel Deville. Interprétant un médecin, le film confronte les souffrances évoquées par les patients et celles silencieuses du médecin. Malade de lui-même, Albert Dupontel incarne avec subtilité et gestes économes ce professionnel qui fait face aux maux quotidiens et à la solitude. Un ton et un sujet unique qui permettent à l'acteur de sortir du registre comique dans lequel beaucoup l'avaient enfermé. Au contraire, la justesse, la fragilité, le regard perdu du Pontel prouvent qu'il peut jouer autre chose, des personnages plus profonds et plus atteints. Sa carrière prend alors un nouveau chemin et les réalisateurs feront souvent appel à lui pour l'interprétation de second rôle fort et marquant. Bien que sa prestation dans Irréversible soit peut-être la moins convaincante, Dupontel profite du film de Gaspard Noé réalisé en 2002 pour entériner définitivement son image d'amuseur public en s'enfonçant totalement dans la noirceur du film. La bipolarité comédie-drame entretenue par le comédien se vérifie avec les deux longs-métrages suivants, Monique et Le Convoyeur. Le premier film, réalisé par Valérie Guignat-Baudet, est une comédie de mœurs qui épingle les fantasmes des hommes. Abandonné par sa femme après des années de mariage, Alex, donc Albert Dupontel, décide de la remplacer par une poupée gonflable. Plongeant dans des comportements de plus en plus incompréhensibles, Alex tente de combler le manque d'affection par une excentricité excessive. Dupontel retrouve là donc un terrain connu et on sent l'acteur à l'aise avec les débordements. Cependant, il nous surprend bien plus encore avec son interprétation d'un convoyeur de fond dans le film de Nicolas Boukrieff. Aux côtés de Jean Dujardin, de Claude Perron et de François Berléand, l'acteur s'affirme au mieux de sa forme avec ce personnage de père qui n'arrive pas à faire le deuil de son fils mort assassiné lâchement. Au milieu d'une ambiance sociale très pesante, le convoyeur essaie de s'intégrer à sa nouvelle équipe tout en dissimulant ses motivations profondes, celles de coincer les meurtriers de son fils. La mise en scène de Boukrieff souligne la double nature du personnage, entre son image publique, polie et rigoureuse, et celle de l'intimité, renfermée et amère. Dupontel y trouve là l'un de ses meilleurs rôles. L'acteur enchaîne les projets et trouve son équilibre dans une diversité stimulante. Il joue le soldat, l'aventurier baroudeur et pourvoyeur de ripailles dans Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet en 2004. Puis, sans s'arrêter, il se glisse dans la peau d'un pianiste lassé de jouer pour les élites dans le film choral de Daniel Thompson, Fauteuil d'orchestre, avant d'enchaîner avec Avida, Président et Odette Tout le monde la même année. Avec Président, réalisé par Lionel Delplanque, Dupontel se taille une place de choix. Face aux acteurs Claude Rich et Jackie Berroyer, le film est une critique du monde politique et des coulisses de l'exercice du pouvoir. Le physique, imposant et sévère de l'acteur, font du personnage un être crédible qui, par certains aspects, combine des traits de chef d'État connu. Aux côtés de tous ces rôles, Albert Dupontel trouve néanmoins le temps de revenir à la réalisation avec le trait déjanté enfermé dehors. Délaissant les rôles sérieux ou plus légers qu'il a incarnés les mois précédents, il revient avec une autre comédie satirique acerbe où un clochard endosse l'uniforme d'un policier pour faire régner sa propre idée de la justice. Au passage, Dupontel égratigne l'image de l'État policier et celui des puissants patrons à la tête d'empires financiers colossaux. Dupontel aime les marginaux et le crie bien fort. Pour le seconder, Claude Perron, Terry Jones, Terry Gilliam et Yolande Moreau s'amusent à ne rien respecter, ni le droit ni la société. Sans être culte, le film aligne tout de même quelques scènes mémorables, dignes des burlesques des premiers temps. Ces deux dernières années, l'acteur enchaîne les films bons et moins bons, surprises et déceptions. Retrouvant Laurent Boutonnat, il incarne la figure paternelle de Jacou le Croquant, un film d'aventure quelque peu insipide où l'acteur n'y trouve qu'une place mineure. Les prétentions sont plus grandes avec deux projets ambitieux, d'une part Chrysalis de Julien Leclerc et L'ennemi intime de Florent Emilio Siri. Si le premier film est clairement une déception, Albert Dupontel tire largement son épingle du jeu dans le film sur la guerre d'Algérie. Néanmoins, l'acteur joue de sa présence comme jamais, aussi bien dans les décors sombres et froids du film d'anticipation que dans les décors moites et terreux du maquis algérien. Des rôles physiques où l'acteur ne se ménage pas, mais qui renoue avec certains traits de ses rôles précédents. Le regard perçant, l'expérience vécue de ses personnages devient concrètement l'expérience de l'acteur lui-même. À l'aise avec ses figures paternalistes, Albert Dupontel est désormais un acteur qui imprègne le cinéma français, ce qu'il finit de prouver avec Deux jours à tuer de Jean Becker. Il endosse sans effort le rôle d'un père qui choisit de quitter sa famille sans prévenir pour rejoindre en Angleterre son père qu'il n'a pas vu depuis l'âge de 13 ans. Si le film comporte quelques faiblesses et un dénouement quelque peu attendu, Dupontel y est encore impressionnant et finit de prouver qu'il a compté parmi les grands noms du cinéma français. On écoute un gros son, de Deux jours à tuer avec Albert Dupontel.
Qui change des causes humanitaires, Mamda ? Eh bien, c'est qu'on ne demande pas que de l'argent.
Ah bon,
c'est bon. Non, bien sûr, on ne crache pas sur un petit chèque. Mais on accepte des brassières pour bébé, des vêtements, n'importe quoi. Et du coup, le donateur n'est pas forcément quelqu'un qui a des moyens.
Tu parles de quoi, là, Clara ?
L'association pour l'Afrique. Tu sais que ça marche de mieux en mieux.
Ah oui ? Et tu fais quoi, t'es là-dedans exactement ? Tu milites ?
Ah, mais pas seulement, je mets carrément la main à la pâte. Hein. Je collecte, je trie, je supervise l'acheminement. Et je donne aussi quelques petits objets personnels.
Ça doit leur faire bizarre aux Africains dans le désert de recevoir un sac à main Gucci ou une paire de Weston.
Ah, très drôle, Antoine. Mais tu caricatures un petit peu, là, tu crois pas ?
N'empêche qu'avec ton train de vie, je vois pas ce que tu peux leur refiler d'autre. La prochaine fois que t'as envie de te payer une paire de pompes hors de prix, file-leur le fric, ça leur fera au moins deux puits au Sahel.
Ouais. Oh. Clara vient de dire que même les gens modestes peuvent faire un geste. Il n'y a pas que le fric.
Paul, s'il n'y avait pas que le fric, tu descendrais tes séances de psychiatre à des prix un peu plus raisonnables, non ?
Mes séances sont très, très raisonnables.
Paul a fait 10 ans d'études, je te signale. Hein. Il est logique que ça lui rapporte maintenant.
Ah oui. J'oubliais, mon Thibault, tu sais de quoi tu parles, toi aussi. Hein. Paul et toi, même combat. Tu t'es bien emmerdé pour devenir dentiste. Normal qu'à l'arrivée, ça tombe.
Oui.
Évidemment.
On dirait que tu découvres comment ça marche. Les tarifs sont libres et les gens sont libres de venir ou de ne pas venir.
N'empêche que pour franchir la porte de vos deux cabinets, t'as intérêt à avoir les moyens, sinon il faut les voir ailleurs.
Ah, attention, Antoine veut refaire le monde.
Oui, je crois.
Toi, tu viens de te rendre compte que la société est injuste.
Voilà le grand ténor du baron qui se réveille. Tu connais bien ça, la justice, Étienne, hein ? Messieurs les avocats qui défendent les grands pourris de ce monde et qui refusent les clients qui n'ont pas de thunes, ça existe.
Non, ce que tu viens de dire est absolument ridicule. Non, c'est un tout petit peu facile de condamner les autres quand on profite des mêmes privilèges, non ? Mm-hmm. T'étais bien content de me trouver quand un de tes clients voulait te traîner devant les tribunaux. Non, est-ce que je t'ai demandé un centime ?
Mais il n'est jamais trop tard, je te dois combien, cher Étienne ?
Non. Mais qu'est-ce qui se passe, Antoine ? Qu'est-ce que t'as avec l'argent ce soir ?
C'est vrai, tu parles que de ça.
C'est normal, à notre époque, l'argent est un préalable à ce qu'on appelle le bonheur. Si t'en as pas, t'es une merde.
Oh,
plutôt, on te considère comme une merde.
Mais l'argent ne fait pas le bonheur.
Bérangère. J'en étais sûr. Chaque fois qu'il y a une connerie à dire, elle est pour toi.
Quoi, c'est une bêtise de dire que l'argent fait pas le bonheur ?
Non.
Franchement, Bérangère, qu'est-ce qui vaut mieux ? Revenir des Seychelles en plein hiver, toute bronzée, et se promener au volant de sa petite mini, ou raser les murs du métro mort de trouille comme Rachida, la bonne de Clara, que ses enfants adorent. Parce que si elle se fait choper par la police sans ses papiers, on la renvoie dans son pays.
Non, mais je vois pas le rapport.
Ah, ça m'étonne pas. On va passer un contrat tous les deux, tu veux bien ? Juste pour ce soir. Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, eh ben, c'est de fermer ta gueule.
Non, mais il est fou de me parler comme ça ! Antoine, s'il te plaît.
Mais quoi, Antoine, s'il te plaît ? Tout le monde adore Bérangère parce qu'elle est nature. Mais le soi-disant naturel, à ce stade-là, ça porte un nom. C'est de la connerie, non ? Tout vous le laissez ici, personne ne m'a jamais dit. Allons, Bérangère, allons ! Bérangère !
Alors, écoute, Antoine, je sais pas si tu cherches à être drôle, mais là, maintenant, tu vas quitter immédiatement ce ton et tu vas aller faire tes excuses à Bérangère.
Écoutez, là, celle-là, la chef Ted. Tu parles pas à tes quatre gosses et à ton mari, là. T'es peut-être habitué à ce qu'on t'obéisse au doigt et à l'œil, mais ici, t'es chez moi. Alors, je dis un peu ce que je veux, non ?
Et toi, tu laisses dire, là ?
Parce qu'il sait que j'ai raison, pardi. C'est ridicule de prétendre que l'argent fait pas le bonheur, c'est de l'hypocrisie, c'est l'alibi du nanti. Je vais vous dire. Celui qui a dit ça devait être un aimable fils de pute qui a jamais su ce que c'était que le manque de fric.
N'importe quoi.
Mais non, pas n'importe quoi. Je maintiens que ce connard a jamais connu l'angoisse de se voir refuser sa carte bancaire dans un supermarché avec la caissière qui agite sa clochette.
Ah, parce que t'as connu ça, toi ?
Écoute, si t'as un problème d'argent, t'as qu'à nous en parler. Si tu trouves que je suis trop cher avec mes patients, au moins que ça puisse te servir.
Moi aussi, hein, je suis prêt à t'aider, Antoine.
Ah, t'es gentil, mon pote, mais j'ai tout ce qu'il me faut. Puis si j'avais des problèmes de fric, c'est certainement pas à toi que j'irai en parler. Parce que le pire dans ces cas-là, tu vois, c'est le regard des types comme toi. D'avoir enfin une bonne action à se mettre sous la dent pour conjurer la platitude de leur petite fille.
Alors moi et ma petite fille, on t'emmerde.
Oh, non, ça va, là ?
Arrêtez, là.
Et moi aussi, je t'emmerde. Comme je merde tous ceux qui, tout petits déjà, avaient toujours la bonne gomme, le bon cahier à l'école. Toujours le bon forfait, le bon bonnet en classe de neige. Parce que c'est dans vos gènes d'être irréprochables. Puis vous me faites chier, tiens, je sais pas pourquoi je vous dis tout ça.
Oui, ça c'est clair, Albert Dupontel envoie chier tout le monde dans ses films. Et bah, le vilain, c'est par contre un peu en dessous hein, de ce qu'il a pu faire jusqu'à présent. On retrouve un petit peu, bien sûr, de ses gags, de son humour assez incisif, assez mordant. Mais bon, ça reste quand même beaucoup plus familial. Bon, après, voilà, Catherine Froh s'en sort très très bien dans Le Vilain. Et c'est vrai que le duo détonne, mais bon, voilà, ça reste quand même en dessous. Mais bon, on va passer à complètement autre chose, puisque bah, là, maintenant, il va être question de Plimpton.
Voilà, bah, d'un autre, un autre réalisateur. C'est très différent, même s'il y a un peu ce côté trash également chez Plimpton. Alors, comme je le disais en introduction, cette année, le festival d'animation de Bayargue, Animasud, recevait parmi ses invités Bill Plimpton, un réalisateur américain de films d'animation, qui fait partie des cinéastes les plus intéressants de ces dernières années. Donc, sa venue dans le coin et la rétrospective de son œuvre, qui était organisée par Animasud, a été pour beaucoup l'occasion de découvrir ou redécouvrir ses films, mais également de rencontrer l'auteur des Mutants de l'espace et de papoter avec lui de son travail. Alors, il y a deux semaines, j'ai eu l'opportunité de suivre Plimpton lors de son passage à Montpellier, où il venait assurer la promotion de son dernier film en date, Des Idiots et des Anges, qui sortait en DVD. Le réalisateur en a profité pour présenter le film en salle au Diagonale le 20 novembre et pour donner une masterclass au Centre Rabelais le samedi 21. Donc masterclass pendant laquelle le public a pu voir l'artiste dessiner certains de ses personnages en direct et découvrir comment il parvient à s'autofinancer et à vivre de ses films qu'il produit de façon indépendante, alors qu'on est plutôt dans un monde où ce sont les grands studios qui mènent la barque. Alors en effet, Bill Plimpton, c'est l'un des seuls réalisateurs américains de films d'animation à travailler de façon complètement autonome, donc sans faire appel au studio. Et cette façon de travailler, donc avec une petite équipe, en assurant seul la réalisation des dizaines de milliers de dessins nécessaires à la création d'un long métrage, eh bien cette façon de travailler lui permet de conserver une intégrité artistique, également une liberté de ton qui se font plutôt rares dans le cinéma américain. Mais bon, par contre, le revers de la médaille, c'est que Plimpton est constamment en train de jongler avec plusieurs casquettes. Il y a le Plimpton artiste, animateur et réalisateur, donc de l'impitoyable Lune de Miel, de R.I., mais il y a également le Plimpton commercial, vendeur de DVD et de t-shirts. Donc Marc Bertrand, qu'on pouvait écouter la semaine dernière dans Cinérama, qui fait partie de l'Office national du film du Canada, était également présent ce jour-là et il résume en quelques mots cette facette mercantile de Plimpton.
Bill, que j'admire son œuvre, doit constamment se vendre et vendre ses films. Il le fait très bien, il réussit très bien. Mais c'est pas tous les artistes qui peuvent faire ça.
Alors avant de revenir un peu sur cet aspect hein, de la personnalité de Plimpton, je vous propose d'écouter quelques extraits de l'interview et de la masterclass pour situer un peu mieux le personnage. Alors l'entretien a été réalisé à l'espace forum de la FNAC et bon, pendant que je posais mes questions au réalisateur, certains de ses courts-métrages étaient projetés sur un écran à quelques mètres de nous, ce qui explique le bruit de fond assez gênant, je m'en excuse.
So I want to make a drawing for you. And this is a story from when I was in high school.
Il va faire un dessin et c'est une histoire de quand il était au lycée.
A friend of mine was running for president of the student body.
Il avait un copain qui se présentait à l'élection pour le président de l'école.
And he said, "Well, Bill, you're a good artist. Why don't you make a poster, an affiche for my campaign?"
Donc le copain a dit, bon artiste que tu es, pourquoi tu ne fais pas une affiche pour mon campagne?
So I made this poster of Marilyn Monroe, très sexy.
Donc, il a fait une affiche de Marilyn.
Comme ça, something like this. And on the top it said, vote for M.M.
Et en haut, c'était marqué, vote pour M.M.
And then on the bottom it said, no, not Marilyn Monroe, Mike McCullough.
Donc en bas c'était non, pas Marilyn Monroe, mais Mike McCullough.
And so I'm sitting in class the next day, and over the intercom,
"Will Bill Plimpton, the pornographer, please come to the principal's office?"
Et le lendemain, il était appelé chez le directeur, qui a demandé que le pornographer Bill Plimpton se présente au bureau.
And so I go, "Oh no, I'm going to be kicked out of school."
Et Bill pensait qu'il allait être jeté dehors de l'école.
"I will never go to college."
Et il va pas pouvoir continuer à l'université.
"I'll be a bum on the street."
Je vais être un bon à rien.
But what happened was,
I return to the class, and everybody sees me different.
Ah, mais quand je suis revenu dans la classe, tout le monde m'a regardé différemment.
They think I'm this artiste provocateur.
Ah, je suis devenu un artiste provocateur.
Radical, revolutionary. Powerful intellectual.
Vous avez commencé donc votre carrière en étant illustrateur dans des quotidiens comme Penthouse, The National Lampoon, Vogue, avant de vous consacrer quasiment exclusivement à l'animation.
Well, I did illustrations for a lot of men's magazines, Playboy, Penthouse, Hustler, Screw, and that was a good way for me to make money.
Bon, il a commencé par faire beaucoup d'illustrations pour les magazines d'hommes, et c'était un moyen fantastique pour gagner de l'argent.
Alors, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur précis qui vous a fait passer de la presse écrite à l'animation?
Well, this film here, that we're, you can hear it maybe, it's called Your Face, and I did that in 1985, and was a huge success that I was not expecting.
Ce film qu'on voit en ce moment, c'est Your Face, votre visage. Et c'était un succès qu'il n'attendait pas du tout, donc je pense que ça l'a stimulé à continuer.
And this film was such a big success with money that I decided to stop making print cartoons and go into animation.
Oui, c'était surtout un succès financier qu'il a décidé de se consacrer. Au film.
Et aussi, c'est la première fois que vous aviez un retour public sur votre œuvre.
Was it the first time you really had a public reaction to your work?
Yes, yes, and that was what was so exciting, because when I did cartoons for magazines, I could never hear the laughter.
Il n'entendait jamais la réaction des gens quand il dessinait dans les magazines.
And then when I saw the audience or heard the audience laugh. Well, for your face, this was what I've been waiting for all my life.
Toute sa vie, il attendait d'entendre les gens rire de son œuvre, et puis quand il a entendu ce public rire avec ce film Your Face, c'était exactement ce qu'il voulait.
And that is the best drug in the world to hear people laughing at my jokes, laughing at my cartoons, and so I immediately realized a childhood dream.
Donc c'est la meilleure drogue au monde d'entendre les gens rire à ces cartoons. Donc c'était un rêve d'enfant.
Donc après ce succès avec le film Your Face, qui a été nominé aux Oscars et en compétition au Festival de Cannes, Bill Plimpton s'est vu ouvrir certaines portes suite au succès financier et public qui auraient pu faire évoluer de façon assez différente le cinéaste en devenir qu'il était. Quand vous êtes passé à l'animation, vous avez été approché par les studios Walt Disney et après votre court-métrage donc Your Face pour participer à Aladdin, ce que vous avez décliné.
Well, they didn't tell me that it was Aladdin they wanted me for. They just said they wanted to hire me.
Ils n'ont pas dit que c'était pour Aladdin, ils voulaient simplement l'employer, les studios Disney.
They offered me $1 million to work for Disney and I was very excited. For me that was a lot of money.
Ils ont proposé $1 million pour travailler pour eux et il était très excité parce que pour lui ça faisait beaucoup d'argent.
But the problem was that I could not make my own films on the weekends because they would own those films.
Le problème c'était qu'il ne pouvait pas faire ses propres films le week-end quand il travaillait parce que les films seraient la propriété de Disney.
So it was a very restricted contract. And I decided to stay in New York and make my films without Disney.
C'était très restrictif le contrat de Disney, donc il a décidé de laisser tomber, rester à New York et travailler indépendamment.
Voilà, donc ce bruitage intempestif que vous pouvez entendre derrière, c'est un des courts-métrages de Bill Plimpton, c'est 25 façons d'arrêter de fumer. Donc Number One, quelqu'un lui saute dessus, etc. C'est un film que je vous recommande. Alors après cet extrait, donc, on a compris que Plimpton a fait le choix de conserver son intégrité artistique, de refuser l'argent des studios Mickey. Et c'est tant mieux, il a ainsi pu approfondir son travail et devenir le trublion que l'on connaît. Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce réalisateur, sachez que
eh bien, chacun de ces films est ancré dans le cinéma de genre, que ces films sont tout sauf grand public, et que Plimpton a une forte tendance à glisser dans ses films, dès qu'il le peut, de la violence graphique, du gore et du sexe. Donc son humour est potache, sale, et la plupart du temps, ses œuvres sont des comédies noires et cyniques sur l'être humain. Il nous explique justement ce choix de faire l'animation pour adultes.
Cartoons are not just funny little animals that make you laugh, they also make you think.
Oui, les cartoons, c'est pas que quelque chose qui fait rire les gens, ça peut faire réfléchir.
So when you see my cartoons, sure, there is some humor there, but also there is some, I want to show something different. I want to make people think different. I want to show ideas that are offensive.
Quand on voit mes dessins, on rit, mais surtout je veux que les gens réfléchissent et qu'ils voient quelque, je veux leur montrer quelque chose de différent et les faire réfléchir.
And in America, many people think that I am not typical cartoonist because I do not do funny little cartoons.
Oui, aux États-Unis, les gens me trouvent atypique parce que je fais pas des cartoons comme on a l'habitude de voir.
I do lots of sex, I do violence, I do strange humor.
Beaucoup de sexe et violence et d'humeur un peu bizarre.
So that is why I think that animation is such a powerful art form.
C'est pour ça que je pense que l'animation c'est une forme d'art très très fort.
That you can make people think differently and make people think new ideas and new kinds of humor.
Donc on peut pousser les gens à penser différemment et leur donner des nouvelles idées.
So I want to break that stereotype in America for animations only for children.
Donc je veux rompre avec ce stéréotype qui fait l'animation que pour les enfants.
And I get many people say to me, why don't you do films for children?
Et beaucoup de gens me demandent pourquoi je fais pas des films pour les enfants.
And my brain does not think about playing with balls and playing with dolls. That's not my thought.
Et mon cerveau ne fonctionne pas comme ça. Je pense pas à jouer avec des ballons, avec des poupées.
My thoughts are more sex and violence and bizarre humor.
Mes pensées vont plutôt vers le sexe et violence et l'humour un peu bizarre.
And I think my friends like that kind of humor.
Et mes amis aiment ça.
They like to laugh at very dark, we say dark humor in the
Ils
States.
Ils aiment rire aux choses sombres.
Je préfère humor noir.
Et moi aussi, je préfère ça. Yeah.
Alors au cours de cette masterclass, hein, il a été plutôt difficile de faire parler le réalisateur de son travail de façon concrète. Si on a eu droit à un cours intensif sur la meilleure façon de vendre un film d'animation et surtout où le vendre, ou encore sur comment économiser de l'argent en faisant appel à des musiciens bon marché et en faisant des films sans parole, Plimpton s'est avéré finalement peu loquace sur sa façon de travailler, sur les techniques qu'il utilise. La démonstration était plutôt visuelle, avec quelques crayonnés rapides de certains de ses personnages, et également la projection de courts-métrages et d'extraits. Alors, on va écouter un autre son, c'est à peu près tout ce que j'ai pu isoler concernant son travail graphique. Il dessine en même temps, donc j'ai coupé, bien sûr, les moments où il dessine, mais ça nous permet de comprendre un petit peu, justement, et ce besoin d'argent et ce manque d'argent qui explique son travail et puis aussi de comprendre un peu son approche de l'animation.
For me, it's very a basic animation.
Pour moi, donc, c'est de l'animation basique.
I don't have the time or the money to do full Disney animation. For example, the dog running, he is like this.
Donc un chien qui court, ça serait comme ça.
And then I do a drawing over here, comme ça. And then he hits the ground like this.
Donc il touche le sol comme ça.
Maybe he has a like that. And that's three drawings.
C'est trois
One,
dessins.
Two, three. And so it starts here, boom, 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 comme ça. Now if I was Disney would do a drawing here, here, here. Here,
donc Disney
here,
rajouterait des dessins
here,
là où il vous montre.
20 ou 30 drawings.
20 ou 30 dessins facilement.
I don't have the time or the money to make those drawings.
Il n'a pas le temps et l'argent de faire ces dessins.
So I do three drawings like comme ça.
Donc il fait trois dessins.
People don't care. People accept three drawings.
En fait, les gens s'en moquent. Les gens acceptent trois dessins.
Boom, boom, boom. It's certainly it's not smooth animation. It's not pure animation. It's a shortcut. You know shortcut?
Ce n'est pas de l'animation pure. Ce n'est pas l'animation fluide. Ce sont des shortcuts.
It's raw. It's rough. It's crude. And that's me.
C'est cru, moi. C'est nu. C'est sa façon d'être.
And I think people accept animation comme ça.
Et donc les gens acceptent ce type d'animation.
It's very rough, and but it's because of the money.
C'est lié à l'argent.
I have no money for.
Il n'a pas les fonds.
And no time.
Et pas de temps.
For lots of drawings.
Alors vu que j'ai décidé de vous épargner la liste des endroits où le réalisateur aime venir projeter ses films, il nous a fait une belle liste de festivals à travers le monde où il présente ses films, je vais vous épargner également la liste des institutions et des compagnies privées qui lui achètent ses films. J'avais prévu de vous passer un petit extrait de la masterclass pendant lequel Plimpton explique les trois règles d'or commerciales qu'il observe systématiquement en matière de création cinématographique, mais on est un peu pris par le temps. Donc pour résumer, en fait, les trois règles du dogme Plimpton, c'est faire des films courts, faire des films pas chers et faire des films drôles. Voilà, il explique que les films courts sont plus faciles à vendre et ont une meilleure réception dans les festivals. Bien sûr, faire des films pas chers, ça lui permet de rentabiliser plus rapidement ses productions. Et enfin, il explique que l'humour a toujours tendance à mieux marcher que des courts-métrages artistiques ou expérimentaux ou des courts-métrages plus poétiques. Voilà, donc il privilégie le gag. Donc finalement, Plimpton, avec ses quelques listes et son approche un peu légère de son travail, il n'a pas vraiment brillé pendant cette rencontre par la qualité de l'analyse qu'il a pu faire de son œuvre, et également de l'humour présent dans ses films ou même de ses succès. Alors il y a un certain contraste entre le politiquement incorrect qu'il prêche dans son cinéma et son attitude globale pendant ces deux jours qui m'a paru, moi, assez étonnant. D'un côté, on a ses œuvres qui regorgent de gags souvent incendiaires quand il s'agit de mettre en scène le mercantilisme, donc qu'on fait ce personnage dans Les Mutants de l'espace qui va presque jusqu'à copuler avec son vaisseau publicitaire. Pour ceux qui ont vu le film, voilà, ça vous parlera. Et d'un autre côté, donc, comme le disait Marc Bertrand, en tant qu'indépendant, eh bien, Plimpton doit se vendre constamment pour subvenir à ses besoins et continuer à faire des films. Alors, il n'y a rien en cela de vraiment choquant, mais bon, quand même, quand on se retrouve en face d'une salle entière de spectateurs, qui sont pour la plupart des fans et qu'on les considère en priorité comme des potentiels consommateurs à hameçonner, qu'on leur sert un discours prémâché, c'est un peu dommage à mon avis. Donc le lieu n'était pas vraiment rempli de distributeurs potentiels pour son prochain long métrage. Et on aurait quand même préféré que pendant ces deux jours, il nous parle un peu plus longuement de cinéma et un peu moins de pépettes.
It's because of the money. I have no money. How I'm able to make money, it's easy to make my money back. And it's still making money. Any money, they don't need the money. I need the money. And I must have money to make more films. But I need the money. And so I do not have that kind of money. And you want to make money. And I make a lot of money. And they pay money for that. And so this is a big money maker. And I get money for that also. Those were most of my money. You can see there's many ways to make money on animation. Yes, and so they pay me money to make money. Making money. Did I make sometimes free, free cartoons for the love of the art? Yeah. I'm trying to think. Well, you know what? I do it for the love of the art. I make films for the love of the art.
Il fait ses films pour l'amour de son art.
And when I'm finished, my agent says, oh, we can sell this to, you know, Canal Plus, or we can sell this to HBO. So it's there's always a market for my films.
Oui, donc il fait tout par l'amour de l'art, et puis c'est son agent ensuite qui dit, tiens, on peut vendre ça à tel et tel. Donc il y a un marché pour tout ce qu'il fait.
In fact, if I was not a success making money, I think I would still make the films.
Et même si j'avais pas de succès avec mes films, je le ferais quand même. Je dessinerais toujours.
For me, the big pleasure is to sit in the audience and hear people laugh at my cartoons.
Pour moi, le plus grand plaisir, c'est de me trouver dans une salle et entendre les gens rire quand ils regardent mes films.
And that is better than money.
Et ça, c'est mieux que l'argent.
Voilà, donc vous pouvez trouver les films de Bill Plimpton en DVD. Maintenant, tous ses films sont édités en DVD, même ses courts-métrages. Moi, c'est une cinématographie que j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous.
Moi aussi, j'aime beaucoup. Même si parfois, ses obsessions finissent par être un petit peu lassantes. Mais il n'en reste pas moins que c'est quelqu'un de très original.
C'est vrai que c'est un peu les mêmes, pas les mêmes, mais bon, ça s'articule autour de l'argent, autour du sexe.
C'est vrai que c'est récurrent. Ouais, mmh. Ouais.
Mais c'était assez acerbe ce que tu nous as mis là sur la fin. Mais en même temps, ouais, je comprends complètement ton point de vue. Quoi,
mais c'est vraiment ce que disait Marc Bertrand, c'est que c'est aussi ce que j'ai ressenti, mais il venait plus là en promotion, en tant que promoteur de son œuvre, qu'en tant que conférencier, en particulier pour la masterclass. Je comprends qu'en interview, c'est rapide, quelques questions. Mais quand on organise une masterclass, il y a le côté classe, il y a le côté on va donner un cours un petit peu sur ce qu'on fait. Alors c'est vrai qu'il a donné un cours d'économie du cinéma indépendant, mais c'est vrai que c'est peut-être pas ce qui passionnait le plus les spectateurs, pour beaucoup des animateurs en herbe ou des gens qui sont passionnés aussi par son graphisme, par son humour. Moi je trouve qu'il y aurait eu beaucoup de choses à dire justement plus sur cette simplification, ces dessins qui sont très sobres, son animation qui est sobre, ce qu'il disait, que Disney il mettrait beaucoup plus de dessins pour faire les mêmes mouvements.
Eh oui, mais c'est un artisan aussi, c'est normal.
Voilà, oui, et bon, il dit qu'il n'a pas le temps, il n'a pas l'argent, et c'est vrai que ça explique un petit peu aussi son graphisme. Mais bon, ça aurait mérité qu'il insiste peut-être plus dessus, qu'il nous parle du son, de l'importance du son dans son cinéma, de la musique aussi, etc. Mais bon, c'est vraiment un cinéaste que je recommande. Regardez ses films, achetez-lui ses DVD, ça lui permettra d'en faire d'autres.
Et puis ça devait être bien quand même pour un fan de Plimpton de le rencontrer, quoi, tout simplement.
Tout à fait. C'était sympa. Bon, l'interview s'est fait dans des conditions un peu dommages. Voilà, il y avait ces films qui passaient en fond sonore, donc il y a beaucoup, une grosse partie de l'interview que j'ai pas pu monter parce que quand les courts-métrages commençaient à devenir bavards, on n'entendait plus trop ce qui se disait.
Voilà, donc on va passer à un autre thème de cette émission. Donc c'est finalement l'événement incontournable de ce mercredi 2 décembre, donc pour moi, je n'engage que moi, avec cette sortie en salle de La Route, je le répète par rapport au début de l'émission, donc c'est l'adaptation cinématographique par le réalisateur australien John Hillcoat du roman éponyme de Cormac McCarthy. Alors pourquoi absolument parler d'événement incontournable concernant cette sortie? Eh bien en fait, il y a une multitude de raisons. Alors en premier lieu, La Route est un roman génial, passionnant et complètement immersif, qui du reste fut récompensé du prix Pulitzer 2007. Il s'agit, en accord avec le genre devenu caractéristique de l'écrivain américain, d'un roadbook haletant dont les personnages principaux sont un homme d'une quarantaine d'années et son fils âgé quant à lui d'une dizaine d'années. On apprend avec les premières lignes du roman que le duo évolue difficilement dans un environnement nord-américain complètement désolé, poussant sur une autoroute déserte un caddie rempli d'objets de première nécessité, de quelques conserves et de vieilles couvertures. Le décor est morne, composé d'étendues recouvertes d'une épaisse couche de cendres, de collines boisées aux arbres carbonisés et de villes fantômes jonchées de détritus et de voitures incendiées. Le ciel lui-même est bas, continuellement obscurci, teintant la lumière naturelle d'une couleur grise et froide. Dans cet univers humide et silencieux, la vie n'est plus qu'un souvenir, évoqué ça et là par quelques touffes de végétaux ras que seule la brise mordante peut encore animer. Armé d'une carte défraîchie, le père tente de fuir cette mort ambiante, de pousser toujours plus avant vers la mer et le sud, vers cet Eldorado supposé, peuplé encore peut-être d'autres gentils, comme il dit, pour rassurer son fils. Car outre la soif et la faim que tous les jours il faut affronter et chercher à satisfaire, sur cette terre stérile qui ne donnera plus jamais rien, le péril est grand, omniprésent. Les hommes ne sont pas tous morts et la majeure partie des survivants se sont regroupés en hordes d'errants, prêts à se mettre n'importe quoi sous la dent. Donc Cormac McCarthy, considéré par certains critiques littéraires comme l'un des quatre auteurs majeurs américains actuels, aux côtés de Philip Roth, est également l'auteur d'un ouvrage qui fut brillamment adapté au cinéma par les frères Coen. Il s'agit bien sûr de No Country for Old Men. L'œuvre et le talent de cet écrivain comme source d'inspiration de qualité constituent donc la deuxième raison de faire confiance à la sortie en salle du film de John Hillcoat. Il n'est d'ailleurs pas fortuit que les romans de McCarthy soient adaptés au cinéma, car comme vous l'avez fait remarquer l'adaptation fidèle des frères Coen, l'écriture de l'écrivain, très particulière, est à la base très cinématographique. Dans La Route, il y a une sorte d'optimisation du style McCarthy, très elliptique, très direct, avec beaucoup de phrases nominales. McCarthy préfère stimuler l'imagination du lecteur en lui dévoilant les pistes de son étendue mentale pour lui laisser le soin de se l'approprier plutôt que de l'y enclaver. Les deux protagonistes sont en effet plongés dans un monde dangereux, hostile et angoissant, ce qui en soi constitue un énoncé largement anxiogène, mais la réussite du roman tient autant du scénario que du style de l'écrivain qui parvient à donner à son récit un réalisme captivant. Chez McCarthy, le récit est catapulté aux yeux du lecteur par paragraphes courts mais compacts, où l'agencement en chapitres classiques, la ponctuation des dialogues et les retours à la ligne sont bannis. La conséquence est une immersion immédiate au cœur de l'histoire. On est littéralement happé par le quotidien des deux personnages perdus au milieu de nulle part et accaparé avec eux par la recherche active dans les débris de nourriture ou de quelques objets utiles à la survie, comme de l'huile de moteur récupérée dans les fonds de bidons ou une bâche en plastique pour se protéger de la pluie et de la neige. Surtout, la narration à la troisième personne et le point de vue subjectif que l'on détient, centré sur le personnage du père, limite la perception de l'ensemble, impression d'ailleurs renforcée par la pratique assidue à la fois de l'ellipse et de la description minutieuse de ce qui environne directement les protagonistes. Admirablement, McCarthy ne nous abreuve pas d'action ou de péripéties incroyables à tout bout de champ, ne nous donne pas d'explication non plus sur la catastrophe qui conditionne cette histoire. Le débat n'est pas là, on sait tous où nous mène le pire de la nature humaine. Avec son histoire, l'écrivain propose au lecteur le quotidien embourbé et pénible de ses personnages. Avec eux, on ressent la faim, la peur, le froid. On espère une bougie projetant son doux halo de lumière sur une table garnie de mets. On rêve de se réchauffer les doigts gelés à la flamme d'un âtre généreux. Et on réfléchit pour trouver tout ça. Et on attend de trouver tout ça. On les attend eux. Et à travers cette attente, c'est l'identification la plus primaire, la plus évidente qui se produit presque par envoûtement. Et quoi de plus logique ? C'est précisément ce que vivent ces personnages. L'attente d'une décision prise par son père pour le môme, et pour le père l'attente de l'espoir de voir renaître un vestige de son monde déchu qu'il ne connaîtra pourtant plus jamais. L'attente de la mort peut-être, qui est évoquée à de nombreuses reprises, bien sûr en cas de mauvaise rencontre, mais également et surtout envisagée par le biais du suicide. Après tout, que feriez-vous, vous, si vous étiez survivant isolé dans un monde désolé ? Éreinté, de plus en plus malade et affamé, c'est finalement dans son fils que le père va trouver la force de continuer, d'espérer l'impossible ou tout simplement de cesser de se projeter pour vivre au présent. La route, c'est donc aussi une histoire d'amour, celle d'un père et d'un fils, où les rôles établis s'effacent selon les circonstances. Inconsciemment, puis consciemment, c'est le fils qui se met à protéger son père, lui donnant le courage de se relever, détectant le danger de ses sens plus jeunes, plus alertes. Donc face à la réussite de ce roman et l'aspect attractif du récit post-apocalyptique, pourquoi croire en la réussite du film de John Hillcoat ? Ben pour la bonne et simple raison que John Hillcoat a lu et adoré le roman de McCarthy et que, d'après nombre de critiques cinématographiques, l'adaptation livrée par le réalisateur est conforme à l'esprit du roman. À ce propos, il n'est pas question de s'en tenir à la chiasse de bande-annonce livrée par des distributeurs peu inspirés pour se faire une idée du film. Ce qui apparaît comme un actionneur lambda n'est pas du tout représentatif de la copie rendue par Hillcoat. Autre raison de croire en la réussite du film et de se jeter des cinéramas terminés dans la salle obscure la plus proche, chose que je ne manquerai pas de faire moi-même, c'est donc bien sûr la nature du casting et donc la participation de Viggo Mortensen qui, on le sait, a pour habitude de croire et de s'immerger complètement dans ce qu'il fait. Un énième visionnage du Seigneur des Anneaux ou des films de Cronenberg, pour ne citer que, vous persuaderont de ce que j'avance. À noter aussi la performance claironnée du jeune Cody Smith-McPhee qui camperait un personnage du fils plus vrai que nature. Et puis la présence au casting de Charlize Theron, Robert Duvall et de Guy Pearce, que du beau monde pour camper des rôles secondaires. Donc, que demander de plus au peuple ?
Ben, merci bien, Boris. Ça a fait envie. Oui. Là, je pense qu'on reviendra sur ce film dans d'autres émissions. Moi, je compte y aller, donc j'en parlerai peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après.
Oui, on va se jeter effectivement dans cette salle obscure du Diago, puisqu'il passe en version originale, donc là par exemple à 16h. Donc voilà, une fois Cinérama terminé, il est question donc de courir pour aller prendre sa place au Diagonale et vous tenir donc juste à côté de nous, moi et Martin, qui allons assister dans la joie à ce film, certainement. Donc on va passer à et bien finalement le dernier sujet qui est si costaud hein, que les précédents. Donc avec eh bien une espèce de point sur Kelly.
Alors il s'agit oui effectivement d'une petite présentation de Richard Kelly, sa vie, son œuvre, etc., etc. Il y a 3 semaines sortait le film The Box et malheureusement il ne passe déjà plus. Donc plutôt que de vous faire un point uniquement sur ce film, je préfère vous parler de Richard Kelly et de l'ensemble donc de ce qu'il a fait. Alors, Richard Kelly est né en 1975. Il sort diplômé en 1997 de l'Université de Californie du Sud en production cinéma. Il réalise 2 courts-métrages avant d'écrire Donnie Darko, sorti en 2001. Film qui devient rapidement culte à défaut d'être un grand succès commercial. Il est ensuite l'auteur du script de Domino, réalisé par Tony Scott et sorti en 2005, avant d'écrire et de réaliser Southland Tales, sorti fin 2007, échec retentissant s'il en est, puis The Box, enfin, sorti il y a 3 semaines, comme je le disais précédemment. Alors, on va faire d'abord un petit passage rapide sur sa filmographie. Donnie Darko donc, raconte l'histoire d'un lycéen américain de 16 ans, Donnie, doué mais psychologiquement perturbé. Il échappe à la chute d'un réacteur d'avion sur sa chambre grâce à un lapin géant, qu'il est le seul à voir, et qui s'appelle Frank, qui lui annonce la fin du monde 28 jours plus tard. Guidé par cet ami imaginaire, Donnie se retrouve vite au centre de multiples incidents et révélations qui ébranleront la communauté de la petite ville où il habite. Alors, mêlant science-fiction, fantastique, films d'adolescents US et comédie sociale, on y trouve pêle-mêle un lapin bleu prophète, des failles spatio-temporelles et de la physique quantique, un gourou New Age, joué par Patrick Swayze, une critique de l'hypocrisie de l'American Way of Life, une histoire d'amour et de sacrifice. Ce film, primé dans un certain nombre de festivals, montre déjà le goût de Kelly pour le mélange de genre et de ton. C'est un coup d'essai qui fut un coup de maître. Ensuite, nous allons parler de Southland Tales, tourné en 2005, présenté à Cannes en 2006, il se fait éreinter par la critique. Le réalisateur doit revoir sa copie. Après remontage, où il passe de 2h41 à 2h26, il ne sort que dans quelques salles aux États-Unis et en Grande-Bretagne, fin 2007. En France, la sortie est uniquement en DVD en 2009. Ce film raconte une histoire censée se dérouler en 2008, pardon pour toutes ces dates. Un attentat à l'arme nucléaire se déroule au Texas. Les États-Unis rétablissent la conscription et se lancent dans de nombreuses opérations extérieures à l'échelle planétaire. Le pays, lui, est mis en coupe réglée par le biais d'une surveillance électronique accrue. Pour faire face à une grave pénurie de pétrole, la société US Hydent décide d'utiliser une nouvelle source d'énergie basée sur le mouvement des océans grâce à une nouvelle technologie fournie par un savant allemand excentrique. Mais cette technologie provoque une perturbation de l'espace-temps qui, à son tour, entraîne des troubles psychologiques chez certaines personnes. Un acteur de film d'action amnésique, 2 vrais faux jumeaux et une pornostar se retrouvent impliqués dans les complots et les affrontements impliquant le pouvoir et un groupe de résistance néo-marxiste. Grand film maudit ou pantalonnade selon les avis, Southland Tales est surtout un film fourre-tout qui part dans tous les sens et dont le principal défaut est peut-être de donner à la fois trop et pas assez, manquant d'une véritable ligne directrice. Il n'en reste pas moins qu'il peut exercer une réelle fascination pour qui se laisserait emporter par cet univers déglingué et si proche du nôtre, par ce présent alternatif. Enfin, The Box. Alors, The Box nous conte l'histoire d'une charmante famille américaine qui s'appelle les Lewis. Et cette famille est apparemment sans problème. Arthur, qui est joué par James Marsden, est ingénieur, travaille pour la NASA sur le projet Viking, qui était un projet d'exploration de la planète Mars dans les années 70. Norma, qui est jouée par Cameron Diaz, donc, est enseignante et ils ont un petit garçon prénommé Walter. Un jour, un homme étrangement défiguré du nom d'Arlington Stewart leur apporte une boîte munie d'un bouton rouge. S'ils appuient sur le bouton, ils empocheront $1 million, mais un inconnu mourra. Évidemment, ils cèdent à la tentation, ce qui entraîne des conséquences incalculables. Adapté d'une nouvelle de quelques pages, intitulée « Le jeu du bouton », du célèbre écrivain et scénariste Richard Matheson, auteur de « L'homme qui rétrécit », de « Je suis une légende », The Box est à ce jour le film le plus « classique » entre guillemets de Richard Kelly, prenant la forme d'un thriller fantastique. Mais s'il gagne en lisibilité, bien que tout ne soit pas expliqué, bien sûr, il perd quelque peu en folie et en richesse par rapport aux deux opus précédents. Ce qui est tout à fait explicable après l'échec cuisant de Southland Tales, où le cinéma semblait s'être un peu trop lâché. Mais même si The Box souffre de quelques longueurs, Kelly montre encore une fois une originalité créatrice au-dessus de la moyenne hollywoodienne, effectuant un télescopage étonnant entre la quatrième dimension et X-Files. Alors, au vu de toute cette œuvre, ma foi, de dimension modeste, puisque c'est un jeune réalisateur, on peut déjà se poser des questions. Est-ce que Kelly est un génie de l'hybridation, hybridation dans le sens de mélange des genres et de mélange des tons, ou n'est-ce juste qu'un petit malin, un faiseur astucieux utilisant consciemment toutes les ficelles de la culture et du cinéma américain ? Il semblerait que l'hypothèse la plus juste, si l'on en croit ses interviews, qu'il se laisse simplement exprimer toutes les influences qu'il a subies sans vraiment le faire exprès. Alors, parmi ces influences, on peut déjà citer Lynch pour l'ambiance d'oppression, l'intrusion de l'étrange de la banalité et le côté énigmatique. Kelly déclare à propos de Southland Tales que ce film est un puzzle. On peut aussi rencontrer Kubrick pour l'ironie, l'humour noir et le sens satirique. De plus, 2001 est un des films préférés de Kelly. Dans The Box, on retrouve l'idée d'une intelligence supérieure testant l'espèce humaine. On peut aussi dire que Kelly est un anti-Spielberg. Comme le grand Steven, c'est un enfant de la télévision. Comme lui, il utilise les codes de la culture de masse US. Mais il les subvertit, et à l'opposé, il ne donne aucune réponse toute faite. Il fait exprès de laisser des trous dans la narration, là on retrouve Lynch, parce qu'il estime que le spectateur doit faire une partie du travail. Et nous avons donc ce rapport à la culture populaire américaine. Richard Kelly est imprégné par la littérature de science-fiction. Outre Matheson pour The Box, on sent planer l'ombre de Philip K. Dick sur Southland Tales. Le genre teenage movie adolescent au lycée se retrouve chez Donnie Darko. Son rapport à la télé dans son utilisation de stars du petit écran, comme Sarah Michelle Gellar, qui joue Buffy contre les vampires et qu'on retrouve dans Southland Tales, ou de stars de série B, comme le catcheur The Rock dans Southland Tales. Utilisation aussi de vedettes has-been, Patrick Swayze dans Donnie Darko et Christophe Lambert dans Southland Tales. Il faut noter aussi que tous ces acteurs sont généralement employés, sont généralement utilisés à contre-emploi. Enfin, là où Kelly se retrouve être quelqu'un de vraiment typiquement américain, c'est la place de la religion dans son œuvre. Le sacrifice et la rédemption occupent chez lui une place centrale, dont on sent qu'il est imprégné d'influence biblique. Chez lui, le sacrifice sauve des vies et permet au pardon d'effectuer son travail salvateur. Il en est de même de la figure du prophète, souvent d'un type bizarre et improbable. Le lapin bleu de Donnie Darko, le soldat junkie de Southland Tales qui déclame des passages de l'Apocalypse, le tentateur défiguré de The Box. Et tous ont en commun d'annoncer la fin du monde, une véritable obsession chez le réalisateur. La fin du monde semble donc être le véritable fil conducteur des films de ces films. Excusez-moi. Il fait systématiquement le rapport entre le microcosme humain et le macrocosme, c'est-à-dire l'univers. L'univers intervient dans la banalité quotidienne des préoccupations les plus terre-à-terre. Les troubles psychologiques de certains personnages leur permettent d'entrevoir des secrets, tandis qu'en sens inverse, les perturbations de l'espace-temps provoquent des perturbations dans l'esprit humain. En conclusion, que ces films soient réussis ou pas, force est de reconnaître que Richard Kelly trace une voie originale, qui doit tout autant à énormément d'influences extérieures qu'à un point de vue qui lui est propre. Ces films peuvent être vus plusieurs fois, tant les univers qu'il crée et qu'il adore détruire sont riches. Univers dans lesquels la tragédie côtoie le ridicule et où le dérisoire révèle le grandiose. Un cinéaste à suivre donc.
Eh bien, merci Thierry pour ce travail fait sur Richard Kelly. Bon, en quelques mots, effectivement, bon, Richard Kelly, c'est finalement un réalisateur qu'on aime ou on n'aime pas. Il a fait 3 films, il y en aura certainement d'autres. C'est vrai que c'est assez inégal hein, ce qu'il a pu faire jusqu'à présent. Il y avait quelque chose d'assez génial dans Donnie Darko, quelque chose d'audacieux, encore plus audacieux finalement dans Southland Tales. Et puis, bon, The Box, peut-être un peu plus, je sais pas, classique finalement, Martin.
Oui, non, c'est assez vrai. Bah, il y a son premier film qui est peut-être le plus réussi.
Oui, c'est clair.
Voilà, il y a Southland Tales qui est pour le coup vraiment une prise de position, une prise de risque aussi avec une narration complètement décousue et puis un scénario étrange. Et puis The Box qui est en effet plus classique, qui rend plus hommage à la SF des années 60-70, à Twilight Zone, à X-Files également, et puis à la littérature de Matheson, de Dick, etc. Donc oui, en effet, un cinéaste à suivre, on verra ce qu'il produira dans l'avenir.
Et espérons que sa maîtrise augmente avec le temps et qu'il puisse nous livrer de vrais chefs-d'œuvre. Voilà.
Voilà, donc juste avant de terminer avec Cinérama de ce mercredi 2 décembre, un événement a annoncé, donc Festa Film au Centre Rabelais le 4 et 5 décembre 2009. Donc c'est finalement le staff de Divergence qui est à l'organisation de cet événement. Donc voilà, deuxième rencontre internationale des courts-métrages. Il sera question donc de courts-métrages francophones principalement sur ce festival. Allez découvrir ça. Donc il y a une inauguration à 18h directement le 4. Donc ça nous amène à vendredi. Vous en saurez plus hein, sur place pour concernant la programmation de cet événement. Voilà, bonne semaine à tous pour plein de cinéma, hein, aller manger dans les salles. Et peut-être un mot de la fin pour vous.
Oui, non, bah merci à Ellie, à la technique. Et à la fin du générique, on écoute un extrait des Convoyeurs à tente de Benoît Mariage.
Salut.
Attention, moi, dans 3 secondes, c'est à toi.
Eh bien, bonsoir Michel, bienvenue sur les antennes de Radio Chevauchoir, sur la 105.5. Une bonne émission à toi Michel et également à tous les auditeurs et auditrices qui sont à ton écoute ce soir.
Merci Simone. Et maintenant, pour commencer notre soirée, la rubrique « Les mensonges du cinéma ».
Chevauchoir FM, le programme que l'on aime.
Cinérama sur Divergence FM.
Alors Michel, beaucoup d'erreurs dans les films cette semaine?
Ben j'en ai trouvé une. Dans le film Les Voleurs, Alex, le personnage principal, achète des sandwichs et quand il se dirige vers la caissière, il demande le prix. Elle lui répond 42 francs et il tend un billet de 50 francs français. Elle lui rend qu'une pièce, c'est ça le problème. Et parce qu'on sait bien que les pièces de 8 francs français, ça n'existe pas. C'est ça l'erreur.
Eh bien merci Michel.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Ah non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Ben, les pompiers, alors.
Les pompiers, c'est le 18. Alors, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.